moi, ce que j'essaie de faire, c'est un, déjà d'être transparent avec les personnes que je manage en direct et leur dire que j'essaie de leur expliquer un peu comment moi je fonctionne et bah, les difficultés que j'ai, tu vois, à exprimer par exemple du feedback positif, tu vois, et de leur expliquer pourquoi j'ai des difficultés à exprimer du feedback positif, tu vois. Moi, elles sont pas surprises. Ça veut pas dire qu'elles trouvent ça normal, mais à minima, tu vois, elles sont un peu moins surprises.
Ouais, en fait, tu fais preuve de vulnérabilité pour que vous arriviez au moins à comprendre les réactions de chacun.
Bah ouais, parce que si la personne est constamment dans l'attente et que pour moi c'est très compliqué de l'exprimer, bah du coup ça crée de la frustration. Ouais. Du coup, je me dis, bah peut-être la personne sera quand même dans l'attente d'une amélioration de ma part, mais au moins elle aura au moins la compréhension de pourquoi je le fais pas. Tu vois. Et donc voilà, et ça fait partie ben des compétences de leadership qu'il faut développer de façon constante en permanence. C'est constant. Et c'est toute la difficulté aussi, je trouve, c'est que il faut constamment évoluer plus vite que la structure parce que le niveau d'attente des collaborateurs ne cesse jamais d'augmenter. Et plus tu as des collaborateurs, plus le niveau augmente. Et donc, du coup, ils attendent toujours plus.
Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Je m'appelle Eric Seclet et je suis copywriter freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple. Vous apportez sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience d'entrepreneurs de l'écosystème SaaS. À chaque épisode, direction les coulisses pour parler validation de l'idée, conquête des premiers utilisateurs, acquisition, pivot, mais aussi réussite et apprentissage. On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute! Et bienvenue au club. Allez, c'est parti. Nouvel épisode de SaaS Club. Je reçois aujourd'hui Nicolas, le CEO de Sohan. Bienvenue Nicolas.
Salut Eric.
Super content de réenregistrer avec toi. On avait enregistré sur Start to Scale ensemble.
Exactement, deux fois déjà.
C'est très cool. Trois fois même. Bah, je vous mettrai les liens en descriptif de l'épisode et j'avais tellement adoré l'échange, je me suis dit bah c'est bon, c'est l'opportunité de lui demander de passer sur SaaS Club et après quelques péripéties, on finit par y arriver.
Bah, merci beaucoup pour cette invitation, c'est très cool de ta part.
Alors, de quoi est-ce qu'on va parler ? On va parler de plein de choses aujourd'hui, mais avant ça, rapide petite présentation de Sohan. Donc Sohan, après je te laisserai détaillé davantage. Donc, c'est un SaaS de gestion tout en un, gestion financière pour les PME et les TPE, c'est ça ?
Exactement.
5 ans d'existence déjà.
Et ouais.
Et plus de 4000 entreprises clientes chez vous. Et tu as passé beaucoup de phases sur ces 5 dernières années. Donc, des phases de scale, des phases un peu, je dirais, de chaos, mais comme dans toutes les aventures que j'ai pu recevoir ici. Et aujourd'hui, on va parler justement donc, de tes différents pivots depuis le début de l'aventure, des difficultés, comment est-ce que tu les as surmontées et aussi tes leçons de management, de recrutement en tant que CEO. T'en as pas mal. Donc, c'est un épisode peut-être, je dirais, un peu plus porté sur l'humain, mais ça fait aussi partie du job, tu nous l'expliqueras. Donc voilà, j'ai hâte de creuser tout ça, mais avant ça, je te laisse te présenter.
Bah merci encore et salut à tous. Donc moi je suis Nicolas, j'ai 38 ans, donc je suis donc un des trois cofondateurs de Sohan, une plateforme de gestion financière qu'on a cofondée il y a 5 ans maintenant avec du coup Peggy Garcia qui est en charge de la partie design et Arthur qui est en charge de la partie tech. Avant ça j'ai participé à beaucoup de projets de start-up. Donc notamment j'ai été aussi cofondateur d'une plateforme de lecture en streaming qui s'appelle Ubooks. Qui était l'équivalent d'un Spotify de la lecture, développé pendant quelques années. Et j'ai participé aussi à des projets dans le paiement, donc ce qui est du coup un environnement assez proche de Sohan, on en parlera un peu plus tard, donc notamment chez Lydia et chez Pumpkin. Donc ça, c'est pour mon parcours professionnel dans l'environnement startup. Et avant ça, je travaillais dans des grands groupes sur des fonctions sales. J'ai bossé notamment chez Pepsi pendant quelques années. Donc j'ai commencé comme commercial et ensuite j'ai commencé à gérer des promoteurs de vente. Donc c'est les gars qui font de la mise en rayon pour ensuite accéder assez rapidement à des fonctions plus de management commercial. Donc, j'ai vraiment cette forte ADN autour du sales. Et avant tout ça, j'ai fait du sport de haut niveau et je suis toujours un sportif passionné. Donc maintenant, je fais des triathlons, des Ironman. Mais mon rêve, c'était d'être cycliste professionnel. Voilà.
D'où notre petit échange juste avant de commencer l'épisode.
C'est ça.
Trop bien, c'est super intéressant parce que du coup, t'as le mix entre, on va dire, business un peu classique, traditionnel, mais avec un fort ADN sales et la partie tech en startup, qui aujourd'hui, je trouve, c'est un peu l'ADN quoi, que t'essayes d'insuffler chez Swan. Donc, il y a la plateforme, il y a le côté paiement avec la tech et l'autre partie sales parce que vous êtes beaucoup développé avec de la outbound, du cold calling et tout.
Ouais, bah tout à fait. On reste une boîte quand même tech. Hein. Aujourd'hui, 30% des investissements ou même des équipes, ça reste quand même de la tech. On est un produit complexe puisqu'on fait de la gestion financière. La gestion financière, c'est aider l'entreprise à y voir plus clair sur ses finances et ça passe par des choses qui peuvent sembler un peu basiques comme faire des factures conformes. Mais ensuite, on va plus loin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait fait la facture, on va fluidifier les échanges financiers, donc de paiement entre les entreprises. Donc là, proposer des solutions de paiement natives directement dans le produit, dans la facture par exemple, automatiser des relances sur des factures, permettre au client d'y voir plus clair si la facture est payée ou pas payée, permettre à l'entreprise d'y voir plus clair sur sa gestion de trésorerie, la collaboration avec l'expert comptable. Donc, tu as une couverture fonctionnelle qui est très large. Bon, tout ça, un sujet qui est sensible, qui est le cash quelque part d'une entreprise. Et donc, il suffit pas d'avoir un petit MVP quelque part. Donc le MVP, hein, c'est le produit un petit peu basique qu'il faut pour tester un peu l'appétence. On touche à des sujets de facturation, de paiement. Donc c'est-à-dire que tout de suite, on rentre dans des sujets autour d'agrément, de stress aussi de la part des clients. Et donc, il faut de l'argent, il faut des équipes tech pour développer un produit qui soit stable. Donc c'est avant tout un produit tech. Et après, il y a forcément un ADN sales parce que les premiers clients, il faut quand même aller les chercher, quoi. Donc, on a eu différentes phases dans l'entreprise. Et même si maintenant, on adresse un marché qui est très large, puisqu'il y a 4000 entreprises en France, on a la chance d'être, pour une startup comme la nôtre, on a la chance d'être sur un momentum marché. Donc, le momentum marché, c'est une espèce d'opportunité marché qui fait que il peut y avoir une accélération dans nos ventes, puisqu'on a une obligation réglementaire en France qui du coup vise l'ensemble des entreprises françaises à s'équiper de solutions de facturation conforme, ça sur un horizon de temps prévu entre 2023, 2024 jusqu'à 2026. Donc ça nous permet forcément d'avoir une opportunité de marché très intéressante pour l'accélération des ventes et donc d'y voir plus clair sur une stratégie d'automatisation. En revanche, les premiers clients, on a été les chercher avec notre téléphone.
Ouais, complètement, avec tous les process, on en a parlé hein, dans les épisodes de Start to Scale, donc je ne vais pas revenir dessus, mais ouais, peut-être, est-ce que tu peux nous donner un peu les grands use cases, tu vois, donc tu nous as expliqué un peu quel était le périmètre de fonctionnel de Swan. C'est quoi un petit peu aujourd'hui les grands use cases pour lesquels vous êtes utilisé?
Alors, Swan, ça reste, c'est un outil global d'encaissement et de décaissement, donc on va pouvoir utiliser la plateforme aussi bien du coup pour payer ses fournisseurs que pour se faire payer. Donc concrètement, on a des clients ou pour les deux, c'est-à-dire et se faire payer et payer ses fournisseurs. Donc, on a différents types de clients qui viennent. Ça peut être des patrons de restaurants qui, eux, ont beaucoup de fournisseurs à payer, ou d'hôtels. Ils vont du coup importer les factures. On va automatiser l'import des factures pour centraliser l'ensemble des factures à payer, faire du paiement, attribuer du paiement par batch pour ensuite mieux collaborer avec l'expert comptable. Donc là, ça permet d'y voir beaucoup plus clair quelque part sur quels sont ces gros fournisseurs, comment est-ce que je pilote un peu tout ça. Il y a après d'autres types de clients qui, eux, vont utiliser la plateforme plus pour se faire payer. Donc là, ils vont utiliser toute la couverture fonctionnelle autour de la facturation, des systèmes de relance, de l'automatisation d'un devis en facture pour les personas qui fonctionnent avec des devis, par exemple. Le paiement, du coup, puisque nous, historiquement, le paiement en B2B est assez traditionnel. Typiquement, j'envoie une facture qui, la plupart du temps, est faite par Word ou par Excel. Et une fois que j'ai gagné un deal, je vais envoyer mon IBAN en PDF par mail. C'est un peu souvent comme ça, la plupart du temps, qu'on se fait payer. Donc le client, bah, lui, il reçoit l'IBAN, il faut qu'il se connecte à sa banque, il faut qu'il crée un bénéficiaire effectif, il faut qu'il valide. Le seul moyen pour l'entreprise de savoir si elle est payée, c'est de elle-même se connecter à sa banque 4-5 jours après, ou 10 jours après, ou 2 semaines après, pour voir si l'argent est arrivé, essayer de bien reconnaître finalement est-ce que c'est le montant correspond à tel client, pour ensuite aller mettre sur un petit fichier Excel typiquement à Monsieur Martin m'a bien payé tel jour. Et donc du coup c'est très manuel et c'est manuel déjà pour le professionnel qui cherche à se faire payer, pour la personne qui paye aussi, et ça allonge les délais de paiement parce que on est jamais très confortable sur le fait de relancer un client, et le seul moyen de savoir si on relance le client, c'est de savoir si on est payé. Et comme le seul moyen d'être payé, c'est que se connecter à sa banque, parfois il y a des décalages de délai interbancaire ou autre, on ne sait pas vraiment à quel moment finalement on shoot le premier mail au client pour lui dire est-ce que du coup tu m'as payé ou pas payé. Donc l'avantage de Swan, c'est qu'on va automatiser tout ça. On va offrir des moyens de paiement au client qui lui doit payer beaucoup plus digitaux. Typiquement, il va pouvoir payer par carte, il va pouvoir payer par prélèvement SEPA, par paiement récurrent, par virement sans IBAN, donc c'est l'initiation de paiement qui permet finalement de faire un virement sans avoir à créer un bénéficiaire effectif. On va lui proposer des solutions. Et surtout, lui, l'émetteur, celui qui attend d'être payé, il va avoir toutes ses notifications avec les étapes de paiement. Donc, typiquement, il va savoir si le paiement il est en cours, si la facture a été payée. Ça va éviter, par exemple, de relancer un client alors qu'entre-temps, le virement a été initié, quoi. Donc ça, c'est un type de use case. Et puis après, on a les clients qui vont utiliser la plateforme pour y voir plus clair sur l'ensemble, par exemple, de leur flux, de leur flux financier. Donc typiquement, les architectes qui, eux, doivent gérer, par exemple, des fournisseurs et en même temps se faire payer, ça leur permet d'y voir vachement clair sur un projet, par exemple, et sur est-ce que ce projet, il a du sens, est-ce qu'il est rentable, est-ce qu'il n'est pas rentable, combien j'ai dépensé, combien j'ai facturé, combien j'ai payé mes fournisseurs. Et ça permet, en fait, visuellement, avec des tableaux de bord, des graphiques automatiques, d'y voir beaucoup plus clair finalement l'instantanéité du cash de la boîte et pouvoir prendre à l'avenir des décisions peut-être plus avisées à l'avenir le nombre de fournisseurs qu'on va prendre ou pas, par exemple.
Donc, en fait, au global, ton job, c'est d'améliorer donc l'expérience de l'utilisateur final, donc ça peut être le CEO ou le CFO, sur la gestion de ses factures, de ses relances, etc. Mais aussi pour la personne qui va payer, justement d'avoir un portail qui est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus simple, qui lui offre beaucoup plus de possibilités pour payer ses factures. Est-ce que aujourd'hui vous êtes présent essentiellement en France, c'est ça ? Il y a pour vous des opportunités de développement à l'étranger, j'imagine. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez déjà pensé, vous avez déjà activé? C'est quoi un peu votre réflexion là-dessus?
Plus présent en France.
Ouais.
En revanche, on a fait comme pas mal de startups, on a fait des erreurs, et notamment à peu près un an et demi, on s'était dit que c'était une super bonne idée, en même temps qu'on était à peine sur une phase de croissance, de lancer un autre pays. Donc on s'était lancé en Espagne. On avait choisi l'Espagne pour plusieurs raisons. Le premier, c'est qu'il y avait des similitudes assez proches sur les enjeux réglementaires autour de la facturation, donc très peu de développement spécifique à adopter.
Ouais.
Et c'était un pays sur lequel les délais de paiement étaient les plus longs et sur lequel il y avait une appétence à la digitalisation plus forte que dans d'autres pays. Donc on s'est dit, c'est un pays qui semble intéressant, donc on va se lancer. Et on s'est lancé et on est vite rentré. Du coup.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a coincé au final ? Parce que sur le papier, ça a l'air d'être une super opportunité et malgré tout,
on a sous-évalué les moyens qu'il fallait mettre à disposition. Quelque part, un peu le coût de setup quoi, pour se lancer. Ouais. On a un peu sous-évalué ça. On a pensé qu'on allait pouvoir un peu bootstrapper, que ça allait le faire. Sauf que finalement, il aurait fallu mettre des moyens plus importants. Il aurait fallu se donner un peu plus de temps et donc toujours pas, et temps revient finalement au moyen. On a sous-évalué aussi l'impact que ça pouvait avoir sur la dispersion sur la roadmap technique, parce que même s'il n'y avait pas beaucoup d'évolution tech ou autre, il y avait quand même la traduction de la plateforme, donc il y avait finalement un peu de stabilisation à faire et ça venait rajouter du travail, et on avait évalué cette charge de travail mais on l'avait quand même sous-évalué. moment donné, en fait, quand on a décidé d'arrêter l'Espagne, on a simplement essayé d'évaluer le coût d'opportunité pour nous entre continuer et qu'est-ce que ça allait impliquer sur la dispersion, les moyens qu'il fallait mettre à disposition plus importants. Est-ce que ça serait utile pour la boîte, sous quel délai, enfin quelle histoire on raconterait autour de ça, ou le fait de se dire on s'est trompé, il vaut mieux arrêter maintenant quoi. Et nous on a préféré du coup arrêter parce que c'était trop coûteux.
Ouais, mais c'est à mon avis c'est pas ça fait partie des sujets qu'on va peut-être explorer un peu plus tard, mais j'imagine que c'est pas le genre de décision très facile à prendre parce que quelque part tu dis j'ai engagé de l'argent dedans. J'ai engagé des équipes, j'ai vendu quelque part le projet peut-être à des invests et tout.
Et nous, on a envoyé des gens à Barcelone.
Ouais.
On a recruté des gens, on a envoyé sur place. Et là, tu leur dis, tu vas rentrer ou tu restes là-bas, mais tu vois.
Ouais,
c'est pas des gens de Barcelone qu'on avait embauchés, c'est qu'on a pris des gens en France, envoyés à Barcelone. Tu vois, donc c'était forcément, c'est là tu te dis waouh, comment j'annonce ça, comment je présente les choses, c'est pas facile hein.
Comment je prends un tout petit peu d'avance sur les sujets futurs parce que je suis pas sûr de m'en rappeler, tu vois, même en me le notant des fois sur un bout de papier, des fois j'oublie, mais juste comment t'as géré ça humainement là, ce cas particulier?
Alors bon, je l'ai géré. Ensuite, est-ce que je l'ai bien géré ou mal géré? Il faudrait demander aux deux personnes concernées comment, à quelle perception de valeur ils ont eu. J'ai tenté d'être le plus transparent possible. J'ai fait preuve de transparence. J'ai expliqué les raisons du, j'ai expliqué la motivation de la décision. Et de pourquoi, en fait, on décidait ça. Et j'ai tenté de le rendre le plus tangible et le plus, compréhensible possible pour que la personne puisse quand même comprendre que c'était pas directement lié à elle, mais qu'il y avait une vision plus globale et qu'il fallait quand même prendre une décision. En revanche, peut-être que j'ai moins fait, ce que j'ai pas assez fait, c'est faire preuve un peu d'empathie sur les éléments sous-jacents de cette personne qui, elle, était partie en Espagne, avait déménagé, avait commencé à avoir des amis, se projeter aussi, tu vois, le côté de se projeter quand tu sais que tu vas te projeter, tu finis par déménager, t'es sur place et on te dit tu vas revenir, parce que du coup on lui avait demandé de revenir pour faire une autre mission chez nous. Et donc du coup ça là-dessus j'ai probablement pas fait preuve d'assez d'empathie là-dessus. J'ai été presque pas mathématique dans la décision, mais j'ai essayé d'exprimer les choses de façon très tangible. Comment nous on l'a géré. Après, c'est toujours pareil hein, quand tu te rends compte avec le recul que parfois tu aurais pu gérer des choses un peu différemment. Après, la réalité c'est que je crois qu'on a, enfin, de notre point de vue, en tout cas, le fait d'avoir été transparent et d'avoir vraiment expliqué les choses, je trouve qu'on a. Au moins, on ne peut pas nous reprocher ça, tu vois.
Ouais, donc c'est comme tu l'as dit, le côté empathie, c'est un truc sur lequel tu mettrais davantage l'accent si jamais une situation comme celle-là venait à se représenter. Mais sur le moment, ce n'est pas forcément le truc. T'étais factuel et t'as essayé de rationaliser un maximum la décision.
Ouais, c'est un peu ça.
Ok, intéressant. Bon, je creuse pas parce que sinon on va partir dans tous les sens et on reviendra sur ces prises de décision par la suite. Super. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu le fil d'où est-ce que te vient l'idée? Comment est-ce que tu as rencontré tes associés, qu'on puisse poser les bases et savoir un peu comment est-ce que vous êtes débrouillé sur les premières années?
Ouais. J'ai rencontré du coup Arthur et Peggy par un réseau d'entrepreneurs que j'ai monté. Donc, il y a quelques années, avec un copain qui s'appelle Daniel, on a cofondé un espèce de petit réseau parisien où, en fait, l'idée, c'est qu'on était assez frustrés des personnes qu'on rencontrait dans des soirées où il y avait beaucoup de monde. Et on s'est dit qu'il fallait prendre un peu plus de temps pour connaître les personnes. Donc, on a commencé à organiser des dîners une fois par mois avec seulement 12 personnes, histoire de, quand tu es en effectif plus réduit, d'apprendre à connaître les personnes. Et ça fait 5-6 ans maintenant qu'on fait ça. Et quand du coup, je suis sorti de YouBooks, Moi, très vite, je savais que je voulais pas monter un projet seul, donc je voulais m'associer. Donc, du coup, j'ai simplement activé mon réseau en disant, tiens, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui fait ça ou quelqu'un comme ça? Donc, j'ai rencontré plein de personnes différentes. C'est dans ce cadre-là, du coup, que j'ai rencontré Arthur et Peggy, donc à travers ce réseau d'entrepreneurs. Et ensuite, la façon dont on a commencé à travailler et à se lancer, donc, c'est que moi, j'avais une vision, finalement, de là où du type de projet sur lequel je voulais aller, qui était autour du paiement B2B. Et donc, on a commencé simplement à travailler ensemble, sans rien se promettre. C'était pendant un été, il y a 5 ans. En mode, bah voilà, tous les jours, on se rejoint là-bas. Et on travaille toute la journée pour, essayer de partager nos idées, essayer d'avoir des débats autour de ça et de voir un peu comment ça prend. Et quand on a senti de façon collective que, en tout cas, les caractères, le champ des compétences semblait assez clair et que ça pouvait être OK, bah du coup, c'est là où on s'est dit OK, on s'associe réellement. Donc, administrativement parlant, on lance la boîte. Donc ça, c'est comme ça que ça, c'est vraiment la genèse. Et donc, on s'est lancé. Et au tout début, tout début de Sohan, c'est un outil de gestion de projet pour architecte.
Ah ouais, donc c'est pas du tout le scope d'aujourd'hui.
Alors, en fait, la brique paiement était présente depuis le tout début. Parce que comme moi, historiquement, je venais du paiement chez Idea Pumpkin. Dans la gestion de projet, il y avait la fin d'un projet, c'est le paiement. Donc, en fait, le paiement. Mais finalement, on avait construit une proposition de valeur plus autour de la gestion de projet. On avait le sentiment que la gestion de projet serait plus compréhensible ou plus vendable que le paiement ou la fluidité de paiement en B2B, quoi. On a commencé là-dessus. On a fait une première opération de levée de fonds de 250 000 euros.
Sur cette proposition de valeur-là, hein.
Ouais, sur 250 000 euros sur rien, parce qu'en fait, on avait pas de site internet, on n'avait pas de nom de marque. On n'avait rien, quoi.
C'était la belle époque.
Je convainc des copains et on lève 250 000 euros. Voilà, en mode, voilà un petit peu où on va aller, quoi.
Et ça, c'est 2017-18, c'est ça, à peu près?
Ouais, quelque chose comme ça, ouais.
Ok. Et entre donc Sohan aujourd'hui et cette idée de départ, il s'est passé beaucoup, on va dire, il y a eu beaucoup de pivots, beaucoup de cheminements dans l'idée. Est-ce que tu peux nous retracer peut-être, je sais pas, par différentes phases, par quoi vous êtes passé?
Du coup, on lance ce projet finalement à peu près 8-9 mois après. Il nous a fallu 8-9 mois pour avoir une première version de la plateforme sur les architectes. Et là, on se rend compte de la difficulté d'adresser le marché des architectes.
Au bout de 8-9 mois.
Ouais. Donc, okay. Ils sont très fermés. Finalement, on se rend compte de la grosse différence entre faire la discovery, donc aller interviewer, tu vois, des archis. Là, ils sont tous flattés, ils ont beaucoup d'ego, ils trouvent ça trop cool. Et le moment où tu leur dis, ça coûte tant.
Là, c'est la gifle.
Tu te dis, ah bon, je croyais que tu avais un problème. Ah ouais, mais j'ai pas ce problème pour 20 balles. Ok, d'accord. Donc, bon, du coup, grosse difficulté.
Ouais, parce que 8-9 mois, tu as quand même consommé un petit peu de cash entre temps.
On avait au moins dépensé, je pense, 150 000 euros, tu vois. Peut-être. Facile, hein. Et donc, on continue quand même pendant, je pense, 3-4 mois.
Ouais.
Et à un moment donné, je me rends compte qu'il me reste, 70 000, peut-être, plus grand chose. Et là, je me dis, bon, ok, si on veut poursuivre l'aventure, il va falloir relever de l'argent. Il faut que je raconte une histoire. Il faut faire quelque chose.
Là, quand tu dis raconter une histoire, trouver quelque chose, à ce moment-là, tu as déjà une idée de comment est-ce que tu vas ajuster le tir ?
En fait, j'avais une intuition. Donc, j'avais un peu l'intuition qui était de me dire, déjà, il faut arrêter le persona des archis. Donc, premier point. Il faut arrêter les archis. Il faut élargir la proposition de valeur. Donc, Je me suis dit, tu vois, c'est pas, il y avait quelque chose à faire autour de ça. Mais je savais pas encore quelle proposition de valeur. Et à ce moment-là, dans l'élargissement des personnages, je m'étais dit, il faut qu'on inclue les professions indépendantes, les professions libérales. J'étais plus sur ce persona-là, tu vois. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a évolué encore après, quoi. La difficulté que j'avais, c'est que j'avais un de mes associés qui était architecte. Et finalement, qui historiquement était un peu l'empreinte pour nous pour aller adresser ce marché-là. Et donc, c'était très compliqué pour moi d'en parler parce que je savais pas comment Peggy, tu vois, allait gérer ça, comment est-ce qu'elle allait ressentir ça. Donc déjà d'un point de vue associé, puis ensuite on avait quand même 5-6 personnes déjà qui bossaient pour nous. Donc et donc là, premier pivot, quoi, comme on dit, quoi.
Donc là, tu élargis ta proposition de valeur. T'abandonnes, on va dire, quelque part les archis. Tu restes focus paiement à ce moment-là.
Alors ouais, en fait, ce qui se passe, c'est à ce moment-là qu'on a découvert que le paiement, en fait, était le vrai client catcher, tu vois. Donc en gros, comment on a fait là, je me suis dit, ok, il me reste peu de temps. Je peux pas me foirer sur le temps qui me reste. Donc en gros, je me suis fait aider par des experts un petit peu pour faire une espèce d'analyse quali-quanti pour y voir beaucoup plus clair là-dessus, quoi. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis pour essayer d'engager les équipes, c'est que j'ai été transparent. J'ai dit à tout le monde, voilà ce qu'il nous reste, voilà la stratégie que j'ai pour faire une levée de fonds, et voilà ce qu'il va falloir que chacun fasse pour qu'on y parvienne. Et donc on va tous s'y mettre. Et donc on peut pas faire un move que sur une intuition. Il va falloir qu'on valide cette intuition. Donc on va passer des calls et on va faire de la discovery, quoi. Et à ce moment-là, on appelle, je sais plus quel est le nombre, mais je pense 150 ou 200 professions indépendantes. C'était des freelances, des designers, des architectes encore, des médecins. Il y avait plein de professions différentes, plein de personas différents, mais qui étaient des professions indépendantes. Et on avait tout un type de façon de faire des questionnaires quali-quanti, quoi. Et c'est à ce moment-là que ressort déjà qui a une prédisposition à payer, mais sur une proposition, enfin sur une pain qui était identifiée beaucoup plus autour du paiement. Donc à ce moment-là, on se dit, ok, on va devenir une solution de paiement, mais on n'y voyait pas encore très clair, B2B. Pour aider ces professions-là à mieux se faire payer, quoi. En gros. Donc ça nous a pris à peu près un mois et demi.
Ouais. À ce moment-là, il te reste quoi? 4 mois
Ouais, il me reste 3-4 mois. Et à ce moment-là, en l'espace d'une semaine, je fais un espèce de nouveau site, un nouveau deck, et je pars en le. Et là, je dis, salut.
Comment est-ce que tu racontes justement
maintenant je vais chercher de l'oseille, quoi, tu vois.
Mais comment justement tu vends, on va dire, cette nouvelle histoire aux invests, parce que j'imagine ils ont dû te challenger en disant, ok, mais qu'est-ce que t'as fait jusqu'à présent?
De ouf. Donc là, je fais une autre levée de fonds de 500 000 euros. Et au final, on a fait 1 million, parce que j'ai fait 500 000 plus 500 000 de dette.
Juste le complément,
À ce moment-là, on avait toujours quasi pas de produits. Pas de chiffre d'affaires, et ouais, effectivement, cette levée de fonds, et je sais pas comment j'ai fait, en vrai, mais elle a duré 2 mois, parce que bon, on a failli mourir, mais 2-3 mois maximum entre le début et le closing, donc finalement quand même assez vite. Et on réussit du coup à lever 1 million d'euros, quoi, au total.
Donc là, tu reprends une bouffée d'oxygène à ce moment-là, t'es quelque part regonflé à bloc parce que t'as une nouvelle vision, en tout cas t'as un champ des possibles qui est un peu plus vaste.
Et en fait, ce qui est cool, c'est que la proposition de valeur que j'ai aujourd'hui de Swan, qui est du coup très claire depuis maintenant au moins plus de 3-4 ans, elle a émergé pendant cette levée de fonds. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais beaucoup challengé sur les personas, sur la profondeur de marché, donc ça m'a fait beaucoup me questionner sur cette notion de profondeur de marché, de persona ou autre. Et finalement, pendant la levée de fonds, je me suis rendu compte que bon, j'allais quand même réussir à lever, mais que j'étais quand même très challengé sur les personas qu'on pensait aller gagner et la profondeur de marché sur ces personas et la prédisposition à payer et tout ça. Et que du coup, probablement que finalement, tout ça allait évoluer quand même assez vite, tu vois. Et en réalité, finalement, assez rapidement après la levée de fonds, je pense que 2 mois ou 3 mois après, on a rechangé les personas. En fait, dès qu'on a eu fini la levée de fonds, j'ai refait un travail autour des personas et c'est là qu'on s'est dit, OK, on va plutôt se positionner sur les TPE, donc là, sur l'ensemble des entreprises, parce qu'il y a plus de valeur à aller chercher. Donc là, ça a été vraiment maintenant le positionnement qu'on a sur le positionnement marché. Et ensuite, on s'est dit, dans la vision, on s'est dit qu'on allait faire l'équivalent du bill.com. Donc bill.com, c'est un gros outil de gestion américain qui permet d'émettre des factures et de payer ses fournisseurs, donc l'encaissement et le décaissement. Et donc on s'est dit qu'on voulait créer finalement une plateforme de gestion financière à destination des TPE. Donc on a fait évoluer du coup le produit, on a été chercher les clients et ensuite on a relevé de l'argent donc là auprès de VC quoi, fonds d'investissement, et avec une vision là qui était du coup une autre histoire qu'on a racontée, qui était de se dire on a une proposition de valeur qui est claire, on a un produit qui est cool, on a des clients, on a du chiffre d'affaires, et donc on a un marché qui est gigantesque, on a un momentum marché, donc maintenant il faut qu'on automatise. Il faut qu'on aille chercher un autre type de croissance. Donc là, on a relevé de l'argent. Donc là, on a fait un peu plus de 3 millions d'euros auprès de fonds d'investissement. Là, c'est un autre game, hein, clairement. Pour le coup, ça a été long. Et le niveau d'exigence était très, très élevé. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et on a failli mourir 2 fois parce que il y a eu une proposition qu'on a droppée. Enfin, il y a eu une due diligence qui a pris beaucoup de temps. Mais bon, on s'en est sorti. Et du coup, c'était il y a pile un an. Et en gros, pendant cette dernière année, on a structuré la boîte puisqu'on est passé. Concrètement, c'est vrai que j'ai pas trop parlé des tailles de boîte, mais au départ, on a été 3. Après la première levée de fonds, on était 6-7. Ensuite, on est passé à une petite vingtaine. Et là, on est monté à une cinquantaine, quoi. Une cinquantaine de personnes, donc forcément cinquantaine de personnes, distructuration de l'entreprise, il faut processer, mettre en place des process dans la boîte, et puis surtout on a fait un gros move dans la façon dont on adresse le marché. Donc là c'est pas un pivot, c'est plutôt une façon différente de l'adresser. Historiquement, donc on faisait principalement de la outbound, donc on avait des commerciaux qui appelaient, puis on avait une espèce de cycle d'entonnoir avec des télévendeurs quelque part qui appellent, des commerciaux qui closent les deals et ensuite des customer success qui accompagnent les clients à la prise en main. Et on est passé de cette phase-là à une phase où on se dit notre marché il est profond, on veut passer à une phase beaucoup plus importante de nouveaux clients tous les mois, donc il faut qu'on automatise. Donc déjà on a fait évoluer le produit pour avoir un produit qui soit beaucoup plus self-onboarding, tu vois, où le client il peut tout faire lui-même quelque part. Et surtout, on a fait évoluer notre stratégie d'acquisition pour arriver à une stratégie d'inbound. Donc maintenant, en fait, nos clients, ils viennent vers nous. Donc ils viennent vers nous par des landing pages, par le site internet, par différents moyens d'acquisition. Et ensuite, ils rentrent sur un free trial. Donc ils ont une période de d'essai de 14 jours offert. Sur lequel là, on va évaluer, nous, différents points d'interaction. Soit des interactions humaines, soit des interactions à travers un product tour in-app, pour ensuite faire basculer le professionnel à l'acte d'achat.
Le produit, au final, il a évolué avec la vision, parce qu'à mesure que tu as éclairci tout ça, tu as pu mettre en avant justement un message différent et donc des fonctionnalités différentes. J'aimerais bien revenir sur quelques points là, justement relatifs à ces pivots. Donc, tu as fait évoluer les personnages, je crois, à partir de la deuxième levée de fonds, c'est ça ?
Les archis, des archis freelance profession indépendante et freelance profession indépendante TPE.
Et je suis très curieux là, c'est plus, on va dire, peut-être pour ma compréhension personnelle, je ne sais pas si je m'éloigne du sujet, mais sur le moment, comment est-ce que tu arrives à valider quelque part ton intuition ? Que c'est vers là qu'il faut aller, sachant que j'ai l'impression que c'est quand même une cible qui n'est pas forcément la plus digitalisée. Tu vois, en tout cas, si on regarde dans le spectre des boîtes B2B, et je sais pas pourquoi, je me dis, mais je vois mal, tu vois, les Français payer pour se faire payer plus vite, tu vois. Et du coup, tu vois, en prenant en compte ça, qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était le bon marché, tu vois, et que c'était là où, en fait, t'allais réussir ? Sur quoi tu t'es basé ?
Déjà, en fait, on a essayé d'être plus structuré sur la prise de décision. Donc, comme je te disais, on a interviewé différents types de personas, parce que t'as le marché, mais t'as après aussi les personas dans un marché. T'as des cibles qui sont plus technophiles, plus digitalisées que d'autres. Et donc, forcément, t'as des cibles, par exemple, qui sont sur lesquelles le taux de pénétration de la digitalisation est peu élevé, mais la paye est forte. Et donc, du coup, ça veut dire que eux, tu vas pouvoir les faire payer. Mais par contre, ils vont être peut-être plus difficiles à capter parce qu'ils sont pas très digitaux, pas très technophiles. Et tu as d'autres cibles, par exemple, qui, elles, sont peut-être plus technophiles ou plus digitalisées, mais qui sont habituées aux outils gratuits, donc ont peut-être une prédisposition à payer moins forte. Il faut arriver à trouver les bonnes verticales pour avoir les premiers clients. Donc déjà, c'est très itératif au final. Sur le marché de la TPE, il y a des milliers de codes neufs différents, donc il y a plein de professions différentes que tu vas pas forcément appréhender de la même manière. Donc quand tu fais du marketing inbound, tu vas avoir des landing pages qui sont dédiées en fonction des professions. Et quand tu as une couverture fonctionnelle aussi large qu'un produit comme Soan, sur lequel finalement sur Soan il y a 6 grosses fonctionnalités entre la facturation, on parle du paiement, mais il y a aussi la facturation, la gestion de trésorerie, le rapprochement bancaire. Et donc ça, c'est plein d'opportunités d'aller toucher des pains différentes aussi pour trouver le bon client catcher, pour faire venir le client sur la plateforme. Et ensuite, parce que tu as une plateforme avec beaucoup une couverture fonctionnelle qui est large, tu vas développer un usage qui est fort. Et donc là, tu vas réduire ton exposition au churn parce que le client va découvrir d'autres fonctionnalités qu'il faisait peut-être avec d'autres outils, où il va se dire, tiens, finalement, ça peut être cool que je centralise tout dans le même endroit. Déjà, je réduis mes coûts, mais aussi ça m'évite de dropper d'un outil à un autre. Et donc, du coup, ça me fait aussi gagner du temps, quoi. On va pas que sur la proposition de valeur de la réduction des délais de paiement. Je veux dire, déjà, on a une proposition de valeur autour de la conformité des outils de facturation. Et ça, c'est un client catcher qui est fort parce que de plus en plus, on entend parler de ce sujet autour de la démocratisation et de la facture électronique. T'as tout ce qui va toucher autour de l'automatisation, du gain de temps que tu peux avoir dans les automatisations. T'as aussi pas mal de personas qui cherchent réellement, eux, des solutions de paiement moins coûteuses. Tu vois, les marchands, par exemple, des professions, t'as par exemple 2 millions de personnes qui sont sur Instagram et qui font des ventes ponctuelles ou non, quoi. T'as des gens qui vendent beaucoup d'argent que sur Instagram. Ils envoient des liens de paiement Stripe ou PayPal, ça leur coûte de l'argent, tu vois, typiquement. Forcément, nous, on leur amène, tu vois, une alternative à ces acteurs-là, un peu moins coûteuse, tu vois. Et donc, c'est un moyen pour nous aussi de gagner ces clients.
Ok, je vois. Et malgré tout, tu vois, j'imagine que ça reste quand même une source de stress, tu vois, de faire ces moves-là, parce que comme tu l'as dit, à mesure que tu avançais, tu avais quand même le bateau derrière toi qui grossissait, tu avais de plus en plus d'équipes, qu'il faut d'ailleurs remotiver au moment des pivots. Enfin, il faut leur faire adhérer à cette nouvelle vision. Comment est-ce que tu t'y es pris? Je crois que tu m'avais dit que tu avais fait pas mal de discussions one-to-one. Enfin, voilà. Est-ce que tu peux détailler un peu la manière dont tu t'y es pris pour remotiver un peu tout le monde?
Je ne m'y suis pas forcément pris de la même façon en fonction de la maturité qu'on avait dans la boîte et du nombre de personnes qu'on était. Quand on a fait le premier réel pivot, on était 6 ou 7. Là, pour le coup, j'ai fait un one-one avec chacune des personnes. Pour leur expliquer. Quand on a fait après l'autre levée de fonds, là on était plutôt une petite vingtaine. Là j'ai plutôt fait une prise de parole et ensuite je suis passé par les managers pour faire redescendre l'information et donc en fait j'ai fait évoluer un petit peu ça et c'est des choses qui sont pas faciles parce que il faut expliquer aux personnes que on va quand même opérer d'une façon différente sans que ça les inquiète. Et du coup, j'essaye de développer et de rappeler régulièrement à chaque prise de parole une notion qui est importante dans notre vie un peu de start-up quelque part. Je dis start-up, mais moi je me vois plus comme une entreprise dans la tech, mais bon, ça veut plus rien dire start-up. Mais quoi qu'il en soit, cette notion un peu d'itération. Ça peut faire. Il y a des personnes qui sont pas forcément confortables au changement, qui considèrent que ah mais ça y est j'ai fait ce truc là et je comprends pas pourquoi on change. Il faut leur expliquer que changer ça veut pas dire qu'on est perdu, ça veut pas dire qu'on sait pas où on va. Ça veut juste dire que justement on est en train de craquer ce truc et que on va devoir tester des choses et que dans ce cadre là, bah il y a des choses qu'on va devoir refaire. Il y a des choses qu'on va devoir refaire complètement, parfois refaire de façon partielle. Et donc, c'est super important de constamment rappeler la courbe d'itération qu'on essaie de faire à tous les niveaux dans la boîte pour rappeler à nos collaborateurs, personnes qui travaillent pour le projet, que cette courbe-là, elle est indispensable pour trouver en fait la bonne façon d'opérer, quoi. Et pourquoi ? Parce que déjà humainement parlant, que ce soit dans nos process, nos structures, on reste des jeunes managers, des jeunes dirigeants où on développe notre courbe d'apprentissage au fur et à mesure du projet, tu vois. Parce que personne n'est CEO de boîte, hein, tu vois, tu deviens CEO d'une boîte et tu deviens en faisant...
Dans la douleur, en plus. Erreurs, hein.
Mais que dans la douleur et que en faisant des erreurs, parce qu'en fait, c'est à quel moment tu te remets en question si tu n'échoues pas, quoi. Je sais pas, en fait. Donc les moments où tu te remets en question, c'est parce que tu t'es foiré sur un truc. Et souvent, c'est dur. Et c'est dans ces moments-là que t'essayes de t'améliorer. Donc et le problème, c'est que quand t'es tout seul, c'est ok, tu vois, tu peux juste bader dans ton coin. Mais quand t'as 30 personnes qui sont là et qui disent ah putain, le patron il s'est trompé ou autre, est-ce qu'il est perdu, est-ce qu'il est compétent, enfin, tu vois, tout, ça peut amener à tout ça. C'est pas facile. Et je pense que là, il faut simplement être transparent et dire c'est normal. Je veux dire, on est jeune aussi, quoi. Ouais. Donc, on est responsable, on se remet en question. Parfois, on se fait aider. Il faut expliquer que on est aussi une jeune entreprise. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses à construire. De la même manière qu'on construit notre produit, on construit notre ADN dans la boîte, notre structuration, tu vois, tout ça. On construit l'entreprise. Je crois qu'il faut simplement l'expliquer, le rappeler, collaborateur, rappeler cette notion d'itération, que ce soit dans le marketing, dans l'acquisition ou autre. Et leur expliquer que c'est une courbe d'apprentissage qui est normale.
Ça, j'imagine que c'est pas la chose la plus simple à faire entendre. Non. Mais côté investisseur aussi, j'imagine que ça doit être un peu sportif, déjà dans ta tête, mais aussi pour justement vendre ta nouvelle vision. C'était quoi un peu la relation avec tes investisseurs dans ces périodes-là ? Est-ce qu'ils comprenaient ? Comment est-ce que tu as communiqué avec eux ? Je suis curieux que tu nous partages un peu là-dessus.
Les investisseurs, en fait, ils font partie du projet. C'est-à-dire que c'est eux qui mettent le fuel dans la voiture. En revanche, qui mettent l'essence, du coup, dans la voiture. En revanche, c'est nous, les dirigeants, qui la conduisons. Et donc, forcément, c'est pas les mêmes compétences. C'est pas les mêmes, la même vision globale du projet. Donc la relation qu'il faut avoir avec les investisseurs, c'est la transparence, la communication, mais il ne faut pas rentrer dans un niveau de détail trop opérationnel. Et ça, typiquement, moi, c'est des choses sur lesquelles je me suis rendu compte avec le temps. Pourquoi ? Parce que tes relations, elles évoluent en fonction de la maturité de ta boîte. Moi, je suis finalement financé par des investisseurs depuis Day One. Que mes premiers investisseurs, ça a été des copains. Puis ensuite, j'ai fait rentrer des groupes d'investisseurs. Donc là, ça s'est un peu professionnalisé. Puis ensuite, j'ai fait rentrer des fonds d'investissement. Bon, voilà, c'est encore un autre délire, c'est un autre game. Et finalement, tout ça, tu le découvres au fur et à mesure. Donc, t'as beau en parler avec des copains qui ont fait ça. Le jour où tu fais ton premier board avec ton fonds d'investissement, finalement, en vrai, tu sais pas du tout si t'es bon, si t'es pas bon. Tu sais pas si t'es plutôt bon par rapport à la moyenne des autres startups dans lesquelles ils ont investi. Si t'es plutôt genre mauvais et t'en sais rien. Donc déjà, tu colles une pression énorme toi-même. Et souvent, tu te colles toi-même. En fait, la pression, c'est toi-même qui te la colle. C'est-à-dire que c'est pas forcément le fond qui va te la coller, quoi. Tu te colles toi-même la pression parce que t'en sais rien. Et donc il faut essayer d'aller chercher du feedback. Alors ça, c'est assez compliqué aussi, cette notion d'aller chercher le feedback, notamment auprès des fonds ou des investisseurs. Pourquoi ? Parce que c'est essentiel pour savoir si on va dans la bonne direction. On a la confiance du fonds ou autre. De mon point de vue, d'aller chercher le feedback, c'est vachement bien parce que ça veut dire que tu es capable de te remettre en question, tu es ouvert d'esprit, tu es capable de changer d'avis. Moi, je trouve que c'est une super bonne valeur, mais Là où il faut être assez vigilant, c'est que parfois, pour certaines personnes, ça peut renvoyer de la dispersion, voire même que la personne est perdue.
Ça, c'est un feedback qu'on t'a fait. C'est pour ça que tu dis ça, ouais.
Tu vois, en fait, t'as des investisseurs qui ont besoin de voir tout le temps le CEO comme un visionnaire. Tu vois, quelqu'un qui sait exactement où il va.
Quelqu'un d'infaillible.
Et quelqu'un qui a une vision qui est très claire, tu vois. Et quand tu vas voir l'investisseur et tu lui dis, t'en penses quoi, toi? Et qui va se dire, je sais pas, t'es pas sûr de toi? Bah si, je suis sûr, mais. Voilà, donc ça c'est assez compliqué. Donc bah du coup, il faut essayer d'aller chercher le feedback sur les personnes où tu penses que pour elles c'est ok de te le donner, tu vois. C'est toujours, en fait, c'est tout ça, c'est un espèce d'être vivant, hein, la boîte, les relations humaines et tout. C'est pas facile du tout. Ça évolue constamment. Parfois, t'as des relations humaines qui se passent très bien à un instant T, et puis ça peut, je sais pas, moins bien se passer à un autre moment. Et donc en vrai, c'est une remise en question constante. C'est beaucoup de charge mentale parce qu'en fait t'es constamment là à te remettre en question, à te dire est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, si je vais poser la question pour savoir si j'ai bien fait, est-ce que la personne va se dire ah bah c'est trop cool, il s'intéresse à moi, ou il va se dire bah il me pose la question parce qu'il est perdu. Toi t'es là, tu dis alors est-ce que je dois aller poser la question ou je pose pas la question? Tu vois, tu te fais des nœuds au cerveau, c'est pas facile, hein. Du coup bah moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plein d'erreurs. Voilà. Je suis allé parfois poser la question aux personnes qu'il fallait pas. Je me suis rendu compte que j'avais fait un peu de la merde. Je me suis dit, bon, bah, voilà. J'ai essayé d'identifier quelles étaient un peu les personnes sur lesquelles je pouvais me reposer un peu plus et d'avoir une relation un peu différente. Dans le feedback ou dans le niveau que je pouvais discussion que je pouvais avoir poussé avec ces personnes. Tu vois, pour essayer de me forger des convictions ou des ancrages plus profonds ou pas. Et moi, c'est un peu comme ça que j'essaie de faire encore aujourd'hui, quoi.
Mais ça vient avec le temps, avec le fait de connaître au fur et à mesure la personne en face, quoi.
Ouais, mais je crois qu'il n'y a pas de clé à donner pour un entrepreneur qui voudrait se lancer. Franchement, ça me parle, même avec le recul, le seul moyen finalement de le savoir, c'est de le lancer. Le seul truc que tu vois, peut-être moi que j'aurais trouvé cool quand j'étais peut-être plus jeune ou autre, c'était d'être peut-être un peu plus averti sur les relations et sur la façon de le faire. Mais en fait, ça reste finalement tellement complexe, les relations avec les investisseurs ou les people. Ce qu'on attend du CEO, c'est d'être constamment exemplaire. Tu peux pas être fatigué, tu peux pas être agressif, tu peux pas être trop directif, tu vois. Il faut tout le temps insulter, donner l'envie. Et voilà, et donc du coup ça aussi finalement on est assez fatigant. Ça amène une pression, tu vois, constante, qui est de se dire faut que je fasse toujours attention, tu vois, si je suis moins présent à une réunion, est-ce que ça veut dire que je me désintéresse, comment ça va être perçu, tu vois. Et finalement, je me suis aussi rendu compte avec le temps que souvent, moi, j'ai une façon de penser dans mon esprit qui est de dire je travaille pour un projet. C'est-à-dire que moi, je suis un des trois fondateurs, je suis le CEO de la boîte, mais dans mon esprit, je contribue au projet. Je suis une des pierres à l'édifice. Et t'as des personnes qui, dans leur driver, ils se disent je bosse pour quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un truc sur lequel qui est beaucoup plus dur à comprendre, moi, dans ma compréhension, quand j'ai des collaborateurs qui soit me le disent ouvertement ou que je le sais, ils me disent mais pourquoi je bosserais pour toi, tu vois. Et ça, j'ai vachement du mal à le gérer parce que dans mon esprit je me dis mais non, tu bosses pour le projet, en fait. Et donc voilà, et du coup c'est là où tu te rends compte à quel point le projet ramène tout le temps au CEO, tu vois, au fondateur. Tu vois, t'aimerais que le projet, il vive pour le projet.
Ouais.
Et qu'il ne soit pas constamment ramené à c'est qui le fondateur ou le CEO, tu vois, et compagnie, et est-ce que je vais avoir envie de lui faire plaisir, mais plutôt travailler pour le projet. Et tu vois, c'est toute cette difficulté-là, quoi. Finalement, on fait un projet, mais tu as des personnes qui bossent pour le projet, tu as des personnes qui bossent pour les personnes qui font le projet. Et c'est ça leur driver.
Et est-ce que tu penses que ça n'a pas un lien, tu vois, tu sais, avec la vision? C'est-à-dire, si j'en sais rien, tu vois, j'ai pas toutes les infos, tu vois, mais je me dis si on va dire est-ce que tu vois, je vais reformuler, je suis en train de réfléchir en même temps parce que au final, si tu pars du principe que tu recrutes des gens qui adhèrent à ta vision, ils devraient techniquement se sentir plus concernés par le projet que par tu vois, la relation de subordination. Est-ce que c'est un truc sur lequel j'en sais rien, tu te dis c'est peut-être un axe d'amélioration, c'est un truc sur lequel tu as envie de bosser justement pour favoriser, on va dire, ce sentiment d'appartenance et ouais, d'avoir un peu ce la mission qui est au centre plutôt que le CEO, comme tu l'as dit.
Bah, en fait, c'est ce que je me disais à la base. Je m'étais dit, ben voilà, une personne, si elle vient bosser pour la boîte, du coup, c'est qu'elle croit dans la boîte, elle croit dans la vision, elle croit dans les valeurs. Et ça m'a toujours surpris quand je découvre qu'une personne, tu vois, m'exprime par exemple, tu vois, un truc qui pourrait te dire, mais du coup, pourquoi je travaillerais pour toi dans ces conditions-là? Et ça va toujours, et c'est franchement, tu vois, typiquement, c'est des choses qui m'arrivent parfois, j'ai du mal à les gérer. Parce que je me dis, bah non, mais tu vois, j'ai envie de lui dire, mais non, mais du coup, si t'es venu, c'est que tu crois dans le projet, tu crois dans la boîte. Et donc, bah, en fait, t'es obligé d'essayer de comprendre. Là où je pense, moi, j'ai un peu progressé, c'est qu'avant, je comprenais pas. C'est-à-dire que, et du coup, je cherchais pas à comprendre et je me disais, mais non, mais c'est incompréhensible ce truc. Maintenant, bah, j'ai compris qu'il y a des personnes qui ont ce besoin de reconnaissance que moi j'ai pas forcément. Donc du coup, c'était compliqué pour moi de le donner parce que je le comprenais pas non plus. Tu vois, donc c'est compliqué aussi de donner quelque chose à quelqu'un quand tu l'as pas compris. Tu vois. Et donc maintenant, je le comprends et j'essaie de le travailler.
Comment t'as progressé? Comment est-ce que t'as travaillé ça? Est-ce que t'as fait appel à un coach justement pour prendre, bah, conscientiser un peu tout ça et ouais.
Ouais. Bah, en fait, déjà, je m'en suis. Il a fallu que je progresse. C'était indispensable parce que ça revenait quand même régulièrement. Donc, à un moment donné, je me suis dit que ça pouvait être une limite et que je pouvais perdre certains talents. Ensuite, j'ai compris que je savais pas comment faire. Voilà, tu vois, je me suis dit, ok, ça, tu vois, j'ai essayé d'être positif en disant c'est pas inaccessible, mais je sais pas par quel moyen le faire. Parce que mon esprit, moi qui suis assez pragmatique, j'ai une façon de hiérarchiser dans mon esprit haute où c'était pas du tout un truc que j'avais que. Enfin, tu vois. C'est-à-dire que même parfois, je comprenais bien que la personne recherchait de l'attention, je savais pas vraiment comment lui donner. Tu vois. Donc c'était pas facile à gérer pour moi. Donc, bah oui, je me suis fait accompagner par un coach et puis j'ai essayé de développer. Et c'est encore en cours. je dirais un feedback plus positif. Moi, j'ai une tendance naturelle au feedback négatif parce que je suis un ancien compétiteur et que pour moi, le feedback, en gros, en tant qu'ancien compétiteur, je suis habitué à plusieurs choses. La première, c'est que le job qui doit être fait, c'est la base. On n'a pas besoin de te remercier pour ça. Tu vois, c'est moi quand je faisais du vélo, à aucun moment mon entraîneur il me disait quand je revenais de l'entraînement, ah c'est bien, t'as été roulé. Ah non, tu vois, je veux gagner des courses, donc oui, il faut que j'aille rouler, tu vois. Donc il y a un peu ce truc, tu vois, où dans mon esprit, dans mon esprit, je partais du principe que j'ai pas besoin de le dire à la personne parce que c'était juste la base. Et dans mon esprit, je devais récompenser uniquement l'exceptionnel. C'était mon esprit en tant qu'ancien compétiteur.
Ouais,
j'étais conçu comme ça. Et donc, du coup, quand tu te rends compte que tout le monde n'est pas comme toi, c'est pas facile. Pas facile. J'essaye de. Et puis, pour moi, le feedback négatif aussi n'était pas négatif. C'est-à-dire que, pour moi, le feedback négatif, c'est cool parce que ça te permet de progresser. Et j'avais pas pris conscience qu'il y a des personnes pour qui le feedback négatif, ça pouvait les faire bader. Parce que moi, dans mon esprit, pareil, encore une fois, en tant que compétiteur, je me suis dit, j'ai un feedback négatif, trop bien, remise en question, amélioration, progression, tu vois, et voilà. Et bon, du coup, voilà. Et donc ça, j'essaye de le développer. Et c'est pas forcément facile parce que j'ai pas forcément ce rapport, moi, à, à l'épanouissement instantané, tu vois, ou au petit moment où on va dire ah c'est trop cool machin. C'est pas forcément un rapport que moi j'entretiens. Donc c'est pas facile en fait à donner, mais c'est bah du coup moi ce que j'essaie de faire c'est un d'être déjà d'être transparent avec les personnes que je manage en direct et leur dire que j'essaie de leur expliquer un peu comment moi je fonctionne. Et bah, les difficultés que j'ai, tu vois, à exprimer par exemple du feedback positif, tu vois, et de leur expliquer pourquoi j'ai des difficultés à exprimer du feedback positif, tu vois. Moi, elles sont pas surprises. Ça veut pas dire qu'elles trouvent ça normal, mais à minima, tu vois, elles sont un peu moins surprises.
Ouais, en fait, tu fais preuve de vulnérabilité pour que vous arriviez au moins à comprendre les réactions de chacun.
Bah ouais, parce que si la personne est constamment dans l'attente et que pour moi c'est très compliqué de l'exprimer, bah du coup ça crée de la frustration. Ouais. Du coup, je me dis bah peut-être la personne sera quand même dans l'attente d'une amélioration de ma part, mais au moins elle aura au moins la compréhension de pourquoi je le fais pas. Tu vois. Et donc voilà, et ça fait partie ben des compétences de leadership qu'il faut développer de façon constante en permanence. C'est constant. Et c'est toute la difficulté aussi, je trouve, c'est que il faut constamment évoluer plus vite que la structure parce que le niveau d'attente, eux, des collaborateurs ne cesse jamais d'augmenter. Et plus tu as des collaborateurs, plus le niveau augmente. Et donc, du coup, ils attendent toujours plus. Genre plus de toi, d'exemplarité ou autre. Et c'est ce qui rend ben, l'obligation de devoir être en progression constante dans l'intérêt du projet. Parce que là encore, on le fait tout ça, on le fait quand moi je m'oblige, tu vois, à travailler mes points d'amélioration. Je le fais dans l'intérêt du projet plus que pour moi.
Et justement, donc t'as cette partie feedback positif sur lequel t'es en train de travailler, c'est encore un chantier en cours, comme tu l'as dit. J'imagine que ça, du coup, c'est quelque chose que tu essayes d'inculquer à tes autres employés, notamment les managers qui eux-mêmes sont en contact direct avec le reste de l'équipe. Est-ce qu'il y a d'autres, je dirais, chantiers sur lesquels tu as dû travailler de ton côté, autre que, tu vois, cette partie feedback, pour justement bah, continuer à progresser avec... ton organisation.
Après, il y a tout le travail régulier autour des relations humaines. Hein. C'est pas toujours facile quand on est habitué à travailler en vase clos avec des associés. Les relations de travail entre associés sont pas les mêmes. On se permet parfois beaucoup plus de liberté dans la façon dont on peut parler à un associé qu'à un collaborateur. Sauf que parfois, on oublie qu'on parle à un collaborateur ou à un associé. Donc voilà, bah, ça, ça fait partie finalement de choses qui peuvent sembler assez logiques, mais qui ne sont pas toujours faciles à mettre en place. En fait, on se fait accompagner. Hein. Nous, je pense comme beaucoup de dirigeants, on a eu différentes phases d'accompagnement par différents types de personnes. On s'est fait accompagner soit sur du coaching individuel ou collectif. Dernièrement, on a mis en place un ProcessCom, donc c'est un accompagnement qui permet à chacun, de façon individuelle, de connaître un peu ses drivers et ses différentes phases. Et ensuite, on l'a restitué collectivement en comité stratégique pour permettre que chacun puisse un peu mieux comprendre les réactions des uns et des autres en fonction de stress ou de non-stress. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de faire pour essayer de mieux se comprendre et d'essayer de s'adapter en fonction de la situation ou de la personne pour que la collaboration et que la performance soient meilleures. Voilà.
Super, super intéressant. Écoute, j'ai envie de passer à la suite, mais c'est intimement lié. Hein, c'est un peu tes learnings quelque part de ces grands pivots. Tu as dû prendre beaucoup de décisions. Comme tu me l'as dit, tu as fait parfois des erreurs. Et parmi, on va dire, les grandes décisions, ça a été de reconstruire quelque part l'équipe parce que ta vision a évolué, parce que les compétences qu'il fallait au début ne sont plus les mêmes qu'il faut pour l'étape d'après. Donc, pourquoi, peut-être pour commencer, pourquoi c'était important de le faire et à quel moment tu l'as fait ?
On l'a fait, on a fait évoluer l'équipe il y a un an et demi à peu près, au moment où on a fait entrer les fonds d'investissement. C'est important de le faire parce que parfois tes équipes, en fait dans tes équipes, t'as différents typologies de collaborateurs et t'as ceux qui vont être là tout le temps, qui ont des potentiels évolutifs, t'as ceux qui sont là par phase, en fonction de la phase de maturité de l'entreprise. Et on s'est aperçu qu'une partie des collaborateurs plafonnait un peu. On s'est posé la question, on avait du coup deux options, soit d'initier des moyens de formation pour les faire monter en puissance, ou d'aller chercher de la compétence directe. Malheureusement, quand t'es une startup qui fait pas de chiffre d'affaires sur lequel il faut délivrer vite, il faut des résultats rapides. Et on a pensé que aller chercher de la compétence de façon immédiate sur les éléments dont on n'avait pas forcément nous la compétence en interne, c'était la meilleure stratégie à adopter. Déjà parce que c'est aussi ce qu'on attend de nous, d'identifier les bonnes personnes, de les mettre à la bonne place, mais aussi parce que ce qu'on attend de nous, c'est d'exécuter rapidement. Parce que finalement, ce qu'on fait, c'est un peu une course contre la montre, contre la mort. Chaque jour qui passe, on est un peu plus proche de la fin, tant qu'on n'est pas rentable. Et comme on n'est pas une boîte rentable, il faut qu'on exécute et qu'on aille vite. Et l'exécution et la rapidité d'exécution, aussi bien que ce soit RH ou dans les métriques de croissance, elle est importante. Il faut qu'on puisse voir une évolution dans l'entreprise entre le moment où l'investisseur y rentre que 6 mois après ou 1 an après. Finalement, c'est les seuls moyens d'évaluer si les personnes en place sont à la bonne place et si l'exécution a été bonne et si on n'a pas dépensé cet argent bêtement, quoi. Donc finalement, on a quand même cet enjeu contre la montre qui est assez fort, et c'est la raison pour laquelle on a fait évoluer du coup les compétences et les personnes, notamment de management. On s'est arrangé avec les personnes qui voulaient partir ou celles qu'on a voulu faire partir, et ensuite on a recruté une nouvelle équipe plus senior. On a été chercher de la seniorité de manière à déjà amener de la seniorité dans les organes de décision de la boîte, plus de maturité, mais aussi d'aller chercher de la compétence marché ou de la compétence technique pour nous permettre d'aller plus vite.
Donc, tu as fait un arbitrage acquisition de compétences externes en direct, et montée en puissance, on va dire, des personnes en place. Tu as fait l'arbitrage entre ces deux voies en fonction de ta contrainte de temps, qui était importante, parce que comme tu l'as dit, c'est une course contre la mort. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur quel poste tu as staffé, pourquoi ces postes-là en particulier, pourquoi c'était important, et peut-être comment est-ce que tu as géré peut-être la transition entre le manager sortant et le manager entrant pour que ça soit le plus fluide possible?
On a staffé déjà forcément la direction commerciale et marketing et la partie customer success, c'est les trois postes importants. Pourquoi direction commerciale? Parce qu'on reste une boîte de sales, il faut vendre, et on sentait qu'on plafonnait un peu sur l'outbound et qu'il fallait qu'on automatise l'outbound pour le rendre plus efficace et plus performant, ou qu'on mette en place une stratégie parallèle d'inbound. Donc on avait besoin de compétences techniques sur de l'inbound et de compétences aussi techniques sur de l'outbound. Donc il y avait forcément ces compétences là sur la partie customer success. On avait aussi une façon de procéder très manuelle finalement au départ, artisanale, où on appelait les clients, on passait du temps avec eux au téléphone, mais on n'avait pas forcément réfléchi à comment automatiser les tâches, quel type de tâches sont automatisables. Tu vois, il y a des tâches que tu fais tellement souvent qu'elles pourraient être automatisées, qu'elles pourraient te faire gagner du temps. Donc on avait aussi besoin de cette expérience passée pour nous permettre d'évaluer de façon assez rapide quelles sont les tâches qu'on peut automatiser, comment les automatiser, quel outil choisir pour les automatiser. Et tout ça, si tu le fais pas avec des personnes qui ont la connaissance, ça prend du temps. Parce que du coup, tu vas prendre du temps à choisir l'outil, tu vas peut-être te tromper sur l'outil, tu vas peut-être recommencer. Malheureusement, on n'est pas le type d'entreprise qui peut se permettre ce type de choses. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que c'est bien et que c'est pas bien. Ça veut pas dire que dans d'autres entreprises elles le font pas. Ça veut simplement dire que dans notre schéma d'entreprise, le temps est important, l'argent et le rapport coût d'opportunité entre la valeur générer à l'instant T et la valeur future et le coût dépensé pour y parvenir, ça fait partie des décisions qu'on doit prendre. Et parfois, ça prévaut sur l'humain parce que on n'a pas beaucoup trop de temps pour former et faire un pari sur une personne et la montée en puissance d'une personne. C'est un pari la plupart du temps parce que parfois ça marche, parfois ça marche pas. C'est compliqué de le faire en fait quand tu as peu de moyens financiers. Les fonds qu'on a faites peuvent sembler beaucoup, tu vois. Par exemple, peut-être certaines personnes qui écoutent doivent se dire: attends, le gars il a levé 5 millions, mais déjà 5 millions c'est pas énorme. 5 millions quand tu dois payer 50 personnes, que tu fais très peu de chiffre d'affaires, c'est peu. Ça fait partie aussi de la façon dont on opère dans des boîtes qui sont dans la tech. Qui doivent investir beaucoup d'argent dans la technologie avant de faire du chiffre d'affaires. Et même si une fois que tu as ton produit, tu commences à faire du chiffre d'affaires, tu as un point d'équilibre qu'il faut trouver entre l'acquisition et une courbe croissance rapide de ton acquisition, et donc les pertes qu'il faut que tu fasses pour aller prendre tes parts de marché rapidement, ou une courbe de croissance plus mesurée qui te permettrait d'être rentable plus vite, tu vois. Nous, on est une entreprise à forte croissance, dans la tech, dynamique, il faut aller vite.
Est-ce
forcément,
que tu...
ça veut dire que tout le monde ne peut pas travailler dans des entreprises comme celle-ci.
Est-ce que du coup, tu estimes que dans ces périodes, la casse, quelque part, quand je dis casse humaine, dans le sens où j'imagine les décisions sont difficiles, est-ce que tu estimes qu'elles sont indispensables, que ça fait partie du jeu et que du coup, t'as pas d'autre choix que de passer par là?
Je considère qu'on n'a pas d'autre choix que de passer par là. En revanche, ce qui pourrait être fait de façon différente, c'est la pédagogie ou l'explication qu'on pourrait avoir. Nous, on revient un peu plus sur de l'humain et sur de la gestion de l'humain. En revanche, ce qui fait pas débat pour moi, c'est que on n'a pas ni la bande passante financière ni de temps pour pouvoir y mettre plus d'énergie ou autre, et qu'il faut être rapide. Ça fait partie, encore une fois, du schéma d'entreprise dans lequel on est. Et ça, c'est pas quelque chose qui se juge ou pas. C'est une réalité. Donc, on doit exécuter rapidement. Et dans cette exécution rapide, forcément, la notion à la performance et au temps est un élément de mesure, tu vois, qui est indispensable. Il faut faire preuve de décision pragmatique. C'est pas toujours facile, hein, parce que finalement, tout ça reste. Et la difficulté aussi, tu vois, c'est que là, je parle un petit peu comme une machine, tu vois, quelque part très pragmatique. Sauf que ce qui fait le succès d'une boîte comme la nôtre, c'est les personnes, c'est l'humain. Parce que sinon, on n'y arrive pas. Tout seul, nous, à nous trois, on n'y arriverait jamais. Et c'est assez compliqué. C'est pour ça que je pense que tout le monde ne peut pas travailler dans ce type d'entreprise. J'entends beaucoup parler, de plus en plus, les paroles se délient, tu vois, autour de la pression que tu peux avoir en startup, tu vois, avec Balance la startup ou autre. Mais parce que peut-être qu'il y a une méconnaissance, tu vois, des collaborateurs quand ils viennent bosser, de ce que c'est réellement aussi une startup et de ce que ça signifie, tu vois. C'est un exercice qui n'est pas simple. Parce qu'on a ces contraintes-là. Notre job, c'est d'éviter de les faire ressentir aux collaborateurs. En revanche, à un moment donné, il faut bien décider. Et quand il faut décider, c'est évident que ce n'est pas facile. Tu vois, des fois, quand tu dois te séparer de certaines personnes que tu apprécies, humainement ou même professionnellement, et qui t'adorent travailler, mais que tu dis, juste la personne, elle ne délivre pas, et ce n'est pas grave. Peut-être qu'elle va vachement bien délivrer dans une autre type de boîte ou autre. Et de devoir lui dire, alors que tu sais qu'aussi elle, cette personne t'apprécie autre, tu vois, c'est super dur. T'as l'impression d'être un gros connard, hein. Mais ça fait partie du boulot et c'est comme ça.
Ouais, ça fait écho à ce que tu m'avais dit la première fois. Tu m'avais dit ça des fois. Tu te lèves et tu dis, mais quelle est la personne que je vais décevoir quelque part aujourd'hui, parce que quoi qu'il arrive, je vais devoir trancher sur pas mal de sujets dans la journée.
C'est vrai. C'est vrai que ça, je l'avais dit, je crois que sur un de tes podcasts, mais aussi sur le podcast d'une copine qui s'appelle Nelly Meunier, là.
Ouais.
Et je parlais de ça. C'est vrai que, heureusement que on fait plaisir à plus de personnes qu'on en déçoit.
Ouais.
Parce que sinon on deviendrait fou. Mais c'est vrai que ben voilà, c'est à partir du moment où tu prends des décisions plus ou moins rapides ou courtes ou des différents types de décisions, ben le principe d'une décision, c'est qu'il faut la prendre. Tout le monde peut pas la prendre. Il y a un process parfois ou un mode opératoire dans la prise de décision qui fait que bah il y a des personnes qui seront pas OK. Donc en fait, c'est compliqué de et donc ce qu'il faut, c'est d'essayer de faire en sorte que même les personnes qui sont pas OK soient quand même suffisamment OK pour quand même le faire. Mmh. Et donc bah et là on revient à chaque fois sur du management, du micromanagement et mais c'est évident que malheureusement on déçoit des personnes soit dans nos attitudes, soit dans les décisions qu'on peut prendre. Et ça c'est dur au départ quand tu deviens dirigeant, parce que, encore une fois, à la base c'est une idée, hein. À la base c'est une idée, tu dis je veux monter ma boîte, t'es à trois, puis ensuite tu recrutes tes premiers salariés, puis tu deviens une entreprise. Finalement tu deviens dirigeant et c'est là où tu te rends compte que ben toi historiquement, enfin la vision que les personnes ont de toi, c'est pas forcément ce que toi tu vois, tu pensais être ou tu pensais être, tu vois. Tu deviens finalement le CEO de cette boîte et avec une cinquantaine de personnes à diriger. Et donc tu te retrouves à devoir faire des choses que tu aurais probablement jamais imaginé faire, mais que tu dois faire parce que ça fait partie de ton boulot de le faire. Et c'est jamais personnel ou autre. Moi, ça m'éclate pas quand je dois faire ça. On essaye de le faire le mieux possible pour tout le monde.
On va dire en fond de tout ça, ça me fait penser à une phrase, je crois, qu'avait dit Emmerich d'Agora Pulse, qui était passé dans le podcast. Vraiment, je vous recommande l'épisode, il a été très apprécié. C'est le plus dur, c'est en gros le CEO est sa propre limite, c'est la propre limite de sa boîte, sa propre limite est la propre limite de sa boîte. Et en fait, tout le job, c'est de réussir à devenir le CEO de l'étape d'après. Ouais. Et parce que, comme tu l'as dit, on devient le CEO, mais on n'est pas CEO. Donc,
exactement.
Donc, ouais.
C'est vrai ce que tu dis sur le fait que on est aussi la propre limite et de la boîte et en tant que CEO. C'est que, du coup, ce que tu dis revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, à chaque fois, même si on est sur un projet, le projet est ramené au CEO. Et donc, si le CEO a des limites, du coup, on se retrouve à avoir les limites pour la boîte. Donc, toute la difficulté, c'est d'essayer de toi toujours constamment progresser en phase avancée tout le temps d'un petit peu d'avance pour que parce que lui, le projet, il avance tout le temps. Il avance tout le temps, tu vois. T'as 50 personnes, donc tes devs avancent, ton produit, il avance, tout avance. Et ça s'arrête pas. Une fois que le projet, il avance, tu vois. Et c'est un peu comme dans le vélo, le peloton, tu vois. C'est-à-dire que t'es dans le peloton, donc c'est le groupe de cyclistes. Si tu tombes, le peloton, il va pas t'attendre. Hein. Il va pas te dire, merde, il est tombé et tout. Venez, on s'arrête tous et on l'attend. Non. Donc toi, tu tombes, tu remontes sur ton vélo, t'as mal, et tu t'arraches pour aller revenir dans le peloton.
Ouais.
Sinon, c'est terminé, tu vois. Et tu rentres chez toi et tu dis, voilà, c'est foiré. Et donc, nous, ce qu'il faut, c'est éviter de tomber. Et anticiper, effectivement, c'est vrai que ce qu'il dit, c'est il a complètement raison et c'est un exercice c'est très stimulant intellectuellement parlant en termes de progression en tant que personne. Ça c'est vraiment cool. Mais là où ça colle une pression forte, c'est que évidemment, je pense que n'importe quel CEO doit trouver le job passionnant et stimulant. Mais là où il y a une pression forte, c'est que c'est cool de se stimuler sur tous ces sujets-là. Mais quand tu as 50 personnes à payer, des investisseurs, des fonds, tu vois, on n'est pas complètement là pour s'amuser, quoi. Donc, voilà.
Carrément. Et du coup, ça me fait un peu la transition avec, on va dire, la dernière partie du podcast. On est déjà à 1h11. Tu as structuré ta boîte justement pour pouvoir avancer avec un peloton qui drive aussi quelque part l'énergie de la boîte, parce que tu as mis en place différents organes de décision, de pilotage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le rôle de chacun et ce qui t'apporte justement toi en tant que CEO et pour la boîte?
On a mis en place différents organes dans la boîte déjà pour se processer, se structurer. Et aussi pour avoir des organes qui font redescendre aussi la vision, les informations. puisque finalement, la communication, l'information, c'est super important. Et c'est important que ce ne soit pas tout le temps les mêmes personnes qui communiquent ou qui informent. Mmh. Parce que quand ça fait 5 ans que tu prends la parole, tu vois, tous les mois pour galvaniser les équipes, ben, à un moment donné, ça fait moins, tu vois, ton discours, il a moins de puissance, moins de résonance. Donc, il faut arriver à opérer un petit peu de façon différente si tu veux pouvoir avoir le sentiment d'être écouté, quoi. Et donc, ce qu'on essaye de faire depuis maintenant un peu plus d'un an, c'est on a mis en place déjà des comités stratégiques. Donc, on a fait rentrer notamment notre CRO, donc la personne en charge du revenu dans le comité stratégique qui est composé de 4 personnes. Mm-hmm. Et ensuite, on a mis d'autres organes, notamment un comité produit qui est là plutôt sur la partie product et donc avec différents niveaux, pareil, stratégie produit et plutôt mise à jour de la roadmap. Et on essaye de bien définir les règles et surtout ce qu'on essaye et les décisions qu'on essaye d'évaluer dans les différents comités, quoi. Mmh. De façon à être assez efficace. Ça nous permet déjà de co-décider et de co-partager les prises de décision et d'embarquer les managers aussi dans la trajectoire dans laquelle on est en train d'aller, que ce soit produit, tech, commercial ou autre, et ça va nous permettre aussi d'avoir des organes qui sont identifiés par les collaborateurs pour faire redescendre l'information, quoi. Donc ça c'est effectivement, du coup on a chez nous un comité produit, un comité RH, un comité un co-strat, un copil, voilà, donc 4 types de comités, ouais c'est ça, 4 types de comités qui sont des organes de gouvernance opérationnelle en interne. Et après, tu as les organes de gouvernance externe qui sont le board, donc là, mm-hmm. qui est le point avec les investisseurs. Donc ça, c'est une fois par mois. Puis ensuite, on a tout ce qui est AG, donc avec l'ensemble des investisseurs. Donc le board, c'est certains représentants d'investisseurs. Mm-hmm. Et les assemblées générales, là, c'est l'ensemble des investisseurs ou des actionnaires de la boîte. Et là, c'est 2 par an, quoi.
Et peut-être que les boîtes ne communiquent pas tellement dessus, mais j'ai l'impression que vous avez... hyper bien structuré cette partie-là. J'ai pas le sentiment que, tu vois, toutes les boîtes ont mis en place tous ces organes, ou alors c'est juste que, bah, voilà, communique pas assez. Qu'est-ce qui fait que toi, t'as structuré comme ça ?
Il y a eu plusieurs éléments. Alors déjà, la partie externe avec le board ou autre, on l'a fait très vite. Dès le début de l'aventure, on avait un board. Et par contre, on a fait évoluer le board. Donc tous les ans, tu as des personnes qui partent, des personnes qui reviennent. Voilà, mais en tout cas, on fait évoluer les personnes dans le board pour aller chercher de la connaissance et utiliser de la valeur pendant ce board. C'est vraiment l'objectif. Et en interne, on a commencé à opérer il y a un an et demi, comme je te disais, parce que on avait le sentiment que comme on allait recruter des personnes expérimentées, elles avaient du savoir et qu'elles allaient pouvoir nous apporter de la connaissance et nous permettre d'y voir plus clair. Sachant que nous, ça faisait 4 ans qu'on fonctionnait à vase clos à 3, on pensait que c'était le bon moment, tu vois, pour commencer à mettre en place cette structuration, mm-hmm. Pour nous permettre de prendre des décisions aussi plus avisées, tu vois. Voilà. Donc ça a été surtout la première motivation, en fait, de ça, qui est de se dire, tu prends des personnes expérimentées, il faut pouvoir mettre en place cette façon de procéder dans ta prise de décision et pas que ce soit uniquement nous trois dans notre coin qui prenons des décisions, quoi.
Et est-ce que justement ces organes de gouvernance, tu les recommandes, lesquels tu recommandes en priorité aux autres startups, en tout cas par rapport à ta lecture, évidemment, tu n'as pas forcément toutes les informations et l'idée, c'est pas de faire des généralités, mais lesquels te semblent les plus importants et pourquoi ?
Honnêtement, j'ai l'impression que les 4 qu'on a mis en place sont importants. Après, on n'a pas la même fréquence sur les 4 comités.
Ouais.
Tu vois, typiquement, je te prends le co-RH, c'est une fois toutes les 3 semaines ou une fois par mois. On considère que ça ne nécessite pas de le faire une fois par semaine, alors que le comité produit, on le fait une fois par semaine parce que on reste une boîte tech sur laquelle l'affinage constant du rétro-planning, des atterrissages qu'on peut avoir sur des sprints ou autres, c'est primordial et il faut qu'on puisse y voir clair. Et surtout, si ça dérape, il faut qu'on puisse évaluer de quelle manière est-ce qu'on réajuste, tu vois, les ressources, quoi. Et ça, c'est super important. Donc, je pense que, et pour moi, ce qui est important aussi, c'est de dissocier des organes différents et de pas faire un espèce d'organe fourzitout. Mmh. Ça permet, tu vois, vraiment d'adresser des sujets que sur les personnes autour de la table à ce moment-là, quoi. Il y a des personnes. Donc, c'est sûr que quand tu es fondateur ou le CEO, souvent, il est dans beaucoup d'organes, tu vois. À terme, il est dans moins d'organes aussi, parfois, le CEO, parce qu'il reste essentiel. Il peut être que sur du board du co-strat, tu vois, presque.
Ouais.
Moi, aujourd'hui, c'est pas encore mon cas. Je reste quand même. Je reste sur CoPro, Copil. En revanche, j'ai aujourd'hui un double vote encore, mais tout le monde a le droit à un vote, tu vois. Mais bon, j'ai jamais activé encore mon double vote. C'est mon pouvoir secret. Quoi.
Pas de 49-3.
C'est mon pouvoir secret, mais voilà, tu vois. Mais la réalité, c'est que tu sais, par exemple, tu double votes, c'est la même chose. C'est même dans des packs d'associés, c'est des choses que tu négocies parfois avec ton board ou autre pour tenter de te prémunir en cas de désaccord. Mais la réalité, c'est qu'il faut éviter le désaccord. Donc, en fait, en général, quand tu commences à utiliser ça, c'est que tu as quand même un problème. C'est peut-être le début d'un problème quand même.
Carrément. Mais qu'est-ce qui te manque d'ailleurs pour peut-être être présent sur moins d'organes de gouvernance? Qu'est-ce qui te manque de quoi tu aurais besoin et est-ce que tu te fixes un objectif là-dessus ou pas?
Ouais, ce qui me manque, c'est de faire une boîte rentable, d'être rentable. Du coup, d'avoir moins de stress et d'angoisse sur mon rapport au cash et le rapport au financement, ce qui me pourrait me permettre de me dire qu'on a craqué un peu tout ça, qu'on est maintenant sur une croissance soutenue, tu vois, mais maîtrisée. Et donc, du coup, voilà, maintenant, je peux lâcher un petit peu tout ça, quoi. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas, ce qui fait que le rapport et la pression au cash et aux dépenses est forte et j'ai un peu du mal à ne pas me sentir informé. Parfois, je vais dans les comités pas pour être partie prenante dans la prise de décision, parce que tu vois, par exemple, il y a des sujets sur lesquels je suis moins en maîtrise. Puis moi, je suis un CEO généraliste, tu vois. Parfois, tu as des CEO qui sont des anciens CTO ou autres qui ont une grosse compétence, tu vois. Moi, je suis un généraliste, c'est-à-dire que je comprends ce qui se passe dans la boîte, mais j'ai pas l'expertise, tu vois, de mes managers ou de mes associés. En revanche, je pense que ce qui fait ma force, c'est mon côté généraliste, tu vois, parce que je suis en capacité de pouvoir comprendre d'un point de vue global ce qu'on est en train d'opérer dans l'entreprise, tu vois. Donc, je peux pas toujours parfois m'exprimer ou prendre une décision, et je vais me reposer plutôt sur la décision collective si je la comprends et que je pense qu'elle est bonne, tu vois. Et donc, je vais y aller parfois plus pour bien comprendre, éviter genre plutôt les conversations, tu vois, en étoile où je vais ensuite demander de l'information en one-one en disant « Ah tiens, vous avez décidé ça, pourquoi ?» Ça me permet, voilà, d'y voir plus clair, je me suis forgé ma conviction, voilà. Mais ça, c'est des choses, je pense que avec le temps, qui seront amenées à évoluer et de la même manière que on a réussi quand même le passage à être 5 ou 6 parfois à prendre une décision. Donc on est passé de 3 fondateurs à prendre des décisions à 5 ou 6. Je pense qu'un jour, je serai en capacité de pouvoir laisser 5 personnes prendre une décision sans forcément que je sois là, parce que c'est une décision trop très opérationnelle et que j'ai même pas de sens à être présent à ce niveau-là, tu vois. Mais pour ça, il faut bien processer et structurer quels sont les champs de périmètre, quelles sont les délégations, tu vois, sur quoi en fait on considère que c'est une décision opérationnelle et quels sont les schémas de prise de décision, pour que les choses soient bien claires et établies et éviter, tu vois, les surprises, les mauvaises surprises.
Ok, je vois. Donc, au final, quelque part, tu as ce besoin de contrôle, donc c'est que je comprends du coup par rapport à cette pression du cash. Donc, c'est avant tout un frein interne aujourd'hui de ton côté, parce que t'as besoin en fait d'être au courant et voilà, mais c'est dans le fond. Tu pourrais d'ores et déjà peut-être enlever ta présence, mais voilà, pour aujourd'hui en tout cas la photographie, c'est ça, si je comprends bien.
Ouais, sur certaines décisions évidemment, il y a des décisions parfois qui sont prises qui sont très opérationnelles. Je vais prendre un exemple concret. Est-ce que ça fait du sens que je sois présent quand on se dit tiens, on va prendre Hotjar comme outil, tu vois, pour faire le plan de mapping de l'app ou du site? Moi, j'ai jamais foutu les pieds sur Hotjar.
Très bon outil.
En revanche, je trouve ça très cool de comprendre pourquoi est-ce qu'on prend un outil, à quoi il va nous servir, quelle valeur il va apporter, cette dépense-là, qu'est-ce qu'elle va apporter et pourquoi c'est super important de l'avoir, et qu'est-ce que ça va me changer entre aujourd'hui où j'arrive à avoir des études mais approximatives et demain des études plus précises. Et du coup, moi aujourd'hui dans ma compréhension globale, et c'est super important, tu vois. Ensuite, évidemment, quand on m'a dit Odjar, qu'est-ce que t'en penses, j'ai dit bah j'en pense que du bien, je sais pas.
Ouais, donc c'est un peu ta manière au final de prendre des décisions, enfin de prendre des meilleures décisions pour avoir justement toute l'information et, comme tu l'as dit, éviter de perdre du temps à faire des allers-retours avec les uns et les autres pour collecter l'info parce que tu n'aurais pas été là.
En fait, ouais, moi ça me fait gagner du temps, en fait, ça me permet surtout d'y voir plus clair, et comme j'aime bien comprendre aujourd'hui, et on reste une taille de boîte où j'ai besoin de comprendre le pouls, j'ai besoin de comprendre un peu tout ça. Du coup, c'est important pour moi. On n'a pas encore complètement craqué, on n'est pas on the rail, tu vois, et tout va bien. Donc, j'ai besoin d'avoir un peu cette courbe de compréhension globale. Et c'est, ouais, ça m'évite les conversations en étoile. Voilà. Après, c'est sûr que c'est évident que, tu vois, dernièrement, on est aussi passé sur un autre outil, je me souviens plus du nom, pour afficher les roadmaps ou autre. Voilà. Moi, là, j'utilise l'outil uniquement pour aller voir la roadmap et la visualiser, tu vois. Mais je sais pas l'utiliser, cet outil-là, tu vois. Mais c'est presque normal, en fait, parce que j'en ai pas un usage dans mon quotidien.
Je suis obligé d'avancer, mais de toute façon on arrive à la fin, donc c'est passionnant. C'est quoi, peut-être juste avant de passer aux petites questions là pour clôturer l'épisode, c'est quoi la suite pour toi? Tu m'avais dit que là vous étiez sur une étape intermédiaire que vous structuriez pour l'étape d'après, justement. Comment est-ce que tu abordes cette étape? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi un peu les zones d'attention pour toi?
Les zones d'attention, c'est de s'assurer qu'on garde le cap et qu'on ne se disperse pas. Et c'est toujours difficile parce qu'il y a toujours des opportunités qui popent un peu de nulle part quand tu développes un produit ou autre. Et c'est toujours très compliqué d'évaluer le coût d'opportunité, si cette opportunité est game changer ou pas, est-ce qu'il faut rester sur son cœur métier ou être focus. Donc ça, c'est toujours un peu complexe. Et parfois, ça peut créer de la frustration, tu vois, parce qu'il y a des personnes qui adorent un peu aller dans la nouveauté. Donc ça, c'est, voilà, ça reste un arbitrage constant sur lequel il faut être assez concentré. Pour moi, ce qui va être important, c'est de démontrer de façon tangible la capacité qu'on a eue à passer d'une stratégie full outbound à du full inbound, jusqu'à une masse critique, où à ce moment-là, probablement qu'on élargira et qu'on reviendra un peu sur de la outbound. Mais l'inbound, en tout cas, pour moi, est important pour aller chercher cette masse critique. Donc ça, c'est les enjeux qui nous attendent sur les 18 prochains mois, clairement, quoi.
Ouais, puis j'imagine ton marché, il est hyper, hyper vaste, hyper éclaté. Ça serait pas scalable d'aller chercher le marché uniquement via de l'outbound, quoi. T'es obligé à un moment donné d'avoir du deal flow entrant, quoi.
Exactement. C'est le truc très cool d'un marché aussi profond, parce que des fois t'as des startups qui sont des marchés finalement peu profonds, petits. Et donc si t'as, une fois que t'as tapé tous les clients, c'est un peu compliqué si ça a pas marché, tu vois. L'avantage pour nous, c'est que déjà c'est un marché où t'as 1 million de créations d'entreprises par an en France. T'as un marché stable d'environ 4 millions d'entreprises par an, donc c'est un marché qui est énorme avec beaucoup de verticales, beaucoup de professions différentes. Donc on a vraiment de quoi faire, tu vois, faire une belle entreprise avec beaucoup de clients et avec un gros niveau de rentabilité, tu vois. Mais c'est clair qu'on est obligé d'automatiser un maximum de choses, quoi.
Top. Bah écoute, je passe aux questions là pour clôturer. On fera le bilan, hein, la prochaine fois dans un autre épisode, de savoir comment ça s'est passé. Est-ce que t'es reparti en Espagne ou non? Est-ce que
c'est pas prévu l'Espagne.
C'est pas prévu. Ok. C'est quoi aujourd'hui, même si je pense que j'ai une idée là, c'est quoi aujourd'hui le plus dur dans ton quotidien?
C'est les relations humaines.
Relations humaines. Ça, c'est instinctif.
Ouais, c'est très dur, les relations humaines, parce que c'est indispensable pour faire avancer le projet. Et parfois, quand tu es entrepreneur, tu es dans la création, tu es dans l'innovation, tu es sur plein de choses. Donc, ouais, c'est pas facile.
C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné depuis le début de l'aventure? Tu as été très bien entouré par des invests, d'autres entrepreneurs. Enfin, c'est quoi le conseil qui t'a le plus marqué?
J'ai pas vraiment un conseil qui m'a marqué. En tout cas, j'ai une situation qui m'a beaucoup marqué il y a à peu près genre 6 mois, 1 an, qui était dans le cadre d'une prise de décision en board, où je voulais faire prendre une décision en board assez stratégique sur un positionnement du produit. Et j'ai présenté un peu les choses en mode, bah voilà, ça coûte tant, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que ça va apporter. Et merci de valider ça. Et du coup, ça n'a pas été validé, quoi. Donc, et je me suis dit, bon, ok. 3 mois après, je me suis dit, tranquille, je recommence. Mais même méthode, tu vois. Et du coup, ça n'a pas été validé. et surtout, le gars me dit, puisque c'est comme ça, je dis non. Et en fait, à ce moment-là, je lui dis, mais pourquoi ? Pourquoi tu refuses, en fait, tu vois ? Et là, il me dit, parce que j'ai le sentiment qu'on pourrait faire autrement et que t'exposes l'entreprise à un risque trop important et qu'il y a d'autres pistes, tu vois, probablement d'autres façons de fonctionner. En tout cas, ça nécessite que tu creuses. Et je considère que voilà, c'est un défocus et que le risque est trop grand. Et suite à ça, je me suis dit, ok, donc un, il faut que je présente les choses d'une manière différente, mais deux, il faut que je creuse, que j'appréhende le projet d'une autre manière. Et du coup, il se trouve que à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais me faire aider de quelqu'un, parce que c'est un truc très technique, en fait, pour faire simple. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait une autre façon de faire, environ 5 fois moins coûteuse déjà en termes d'argent, et 3 fois moins sur la roadmap. Déjà, j'ai vu ça, j'ai fait, je m'en suis un peu voulu, tu vois, je me suis dit, oh putain, bâtard, quoi. Et du coup, j'ai présenté en board et de toute façon, bah là, du coup, c'était OK. Donc, tout ça pour dire que ce que j'ai appris, c'est qu'il y a, c'est super important la façon dont on présente les choses. Et dans notre métier à nous, il faut essayer de, tu peux pas venir juste avec une façon de présenter. Il faut essayer d'avoir toujours cette vision globale, se poser la question de est-ce que c'est bon pour le projet, est-ce que cette décision que j'ai prise, elle est bonne. Et c'est vraiment là où je me suis rendu compte de la différence entre manager ou décider à l'intuition, tu vois, et décider, tu vois, en ayant fait une recherche plus aboutie pour se forger des convictions plus profondes et de se dérisquer un maximum. Et aujourd'hui, les fonds d'investissement notamment, ils attendent aussi des dirigeants de dérisquer la prise de décision et donc d'avoir des décisions qui soient plus abouties et plus réfléchies, tu vois. Et finalement, c'est ça que j'ai appris il y a quelques mois, pris conscience, et ça m'apporte beaucoup maintenant aussi dans mon dos. Souvent, même je repense souvent à cette situation où je me dis, ok, est-ce que là je suis sur de l'intuition, est-ce que j'ai suffisamment d'éléments pour décider, est-ce que finalement j'ai un peu checké un peu les différentes étapes pour m'assurer que finalement le coût d'opportunité est ok, le risque est ok, tu vois. Et donc du coup, finalement, ça m'a amené de la professionnalisation aussi, tu vois.
Donc t'as professionnalisé, t'as dérisquer ta prise de décision, en tout cas depuis ce moment-là, t'as pris conscience que tu devais pas forcément laisser parler que ton cœur, que ton intuition, qu'il fallait explorer davantage et surtout, qu'il y avait aussi la manière de présenter.
Ouais, et surtout j'ai appris que il suffit pas d'avoir des convictions pour décider. Tu vois, c'est pas parce que t'as une conviction que ça veut dire que c'est la décision qu'il faut prendre. Tu vois, et c'est là où je me suis aperçu aussi de la différence un peu entre le manager et le dirigeant, c'est-à-dire que moi, tu vois, mon board, ils s'en foutent de mes convictions. Par contre, ce qu'il attend de moi, c'est que je prenne les bonnes décisions pour la boîte. Tu vois, et c'est une vraie différence, tu vois. Et c'est vraiment là où, tu vois, des fois, t'as une conviction, tu dis, mais je suis sûr qu'il faut aller avec ce partenaire-là. Ok, mais est-ce que t'as rencontré 3 autres partenaires? Est-ce que tu les as shortlistés? C'est quoi les opportunités, les faiblesses des uns des autres, tu vois? Et d'essayer de revenir à une vision plus globale pour essayer de dérisquer un maximum. Donc ça, je trouve que c'est très bien pour la boîte. La limite à ça, c'est que ça augmente le temps de prise de décision.
Ouais. Ah bon, de toute façon, il y a forcément une limite, mais au final, ça te permet de détacher ton ego quelque part de la prise de décision. C'est pas moi, j'ai raison, comme tu l'as dit. Hein, c'est, il y a une différence entre... Ouais. Ok. Trop bien. Merci pour le partage de l'anecdote.
Et d'ailleurs, c'est le mot que tu utilises, le rapport à l'ego et la prise de décision. Ben c'est finalement un peu la synthèse de cette situation. Tu vois, j'avais un peu cet ego au départ dans les deux façons de voir où j'ai présenté mon truc. J'étais convaincu que c'était comme ça qu'il fallait faire, mais je m'étais même pas posé la question s'il y avait une autre façon de faire. Tu vois, donc c'était purement de l'ego. Tu vois, je pensais que j'étais sachant et que c'était ok. Tu vois, et c'est vrai que ce que tu dis, c'est ça. C'est finalement t'as un rapport à ton ego différent. Enfin, en gros, tu dois prendre une décision. Et c'est pas ton ego qui doit prendre la décision. C'est tu dois prendre une décision pour le projet, quoi.
Super, merci beaucoup pour le partage. Deux dernières questions. Si tu devais changer une chose dans l'histoire de Swan, ça serait quoi aujourd'hui?
Moi, je changerais rien parce que franchement, l'aventure, elle est fatigante, mais elle est top. Je continue à bosser avec mes associés. C'est pas facile, mais j'ai la chance, tu vois, d'avoir des associés qui ont des compétences complémentaires aux miennes, que ce soit technique dans les hard skills ou dans les soft skills. Finalement, on est super solidaires. Pour le moment, on s'est jamais frité. Je vois tellement de boîtes. Enfin, on s'est frité, mais jamais au point du non-retour. Ça fait une vraie force en nous. Tous les moves qu'on a pu faire ou autre, ça fait partie de notre résilience et de notre capacité à pouvoir, tu vois, développer un projet. Ça va être long et on sait qu'une entreprise, c'est long. Donc, j'ai pas de jalousie de boîtes qui ont levé plus d'argent ou autre. Je considère que tout ça fait partie de notre histoire. Et puis, en tout cas, nous, cette histoire, elle fait partie de nos vies à 100%. Et voilà, tu vois. Donc, non, je changerai vraiment rien. Et même, en fait, les erreurs qu'on a pu faire ou que j'ai pu faire, ou parfois des comportements qu'on a pu avoir ou autre, ils ont fait partie de là où on est aujourd'hui.
Ça t'a fait grandir, comme tu l'as dit, dans ton rôle de CEO.
Ouais. Donc, désolé pour les personnes parfois qu'on a déçues ou sur lesquelles on a pu avoir des comportements parfois peut-être considérés comme étant trop durs ou pas adaptés. Mais ça a fait partie de cette courbe d'apprentissage. Voilà.
Dernière question. Est-ce que tu as un livre ou une ressource à nous recommander, quelque chose qui te sert, qui t'a servi, ou alors, je sais pas, un bouquin que tu offres à tes managers, à tes employés?
Alors, tu sais, je me suis pas du tout préparé à cette question, mais ce qui est super marrant, c'est que c'est une question qu'on pose de plus en plus aux entrepreneurs. Et ce qui est d'autant plus marrant, c'est que du coup, j'ai participé et développé une entreprise pendant 5 ans dans la lecture en streaming, et que j'ai pas de livre chez moi.
C'est pas du genre. Non, mais tu sais qu'il y a quelques invités qui m'ont dit voilà, moi je lis pas, j'ai pas envie de lire des bouquins business à la fin de la journée, j'en ai déjà plein la tête. Tu fais partie de cette catégorie-là?
Je lis pas. En revanche, j'aime bien les podcasts, j'en écoute régulièrement, mais plus des podcasts business, des aventures d'entrepreneurs ou autres, plus aussi pour me libérer le cerveau. Après, je lis beaucoup sur LinkedIn.
Ouais.
LinkedIn, c'est un peu devenu, tu vois, j'aime bien y aller 1 heure par jour. Ça me permet de prendre le pouls marché, tout ça, c'est assez cool. Mais voilà, je lis pas à côté.
Ok.
Donc je n'offre rien.
Ok. Ouais, tu pourras parler de SaaS Club, voilà.
Voilà. je pousse souvent SaaS Club d'ailleurs à mes sales en disant ça c'est trop cool. Ça permet de comprendre un peu un SaaS c'est aussi particulier, tu vois, comme produit à vendre ou autre, et ça permet de comprendre un peu comment on. C'est pas juste de vendre une véranda ou vendre du Pepsi, tu vois. Je recommande.
merci. C'est pas sponsorisé, hein. Je préviens. Écoute, merci beaucoup Nicolas, c'était très cool. Je suis très content d'avoir fait un épisode un peu plus centré sur l'humain et peut-être sur le rôle du CEO, parce qu'au final on parle, c'est vrai, beaucoup business, beaucoup marketing dans le podcast, mais au final la vélocité avec laquelle une boîte avance, c'est aussi la résultante de toutes les décisions et l'empilement des décisions que le CEO peut prendre. Donc voilà, très content d'avoir fait cet épisode avec toi.
Merci beaucoup, c'était très cool.
Et moi, j'espère que vous avez apprécié l'épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, du coup. Allez, ciao.
Salut.
SaaS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SaaS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métiers et business d'un SaaS, envoyez-moi un message sur LinkedIn Eric Seclet, SECLET. Encore merci et à la semaine prochaine.